Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Est-ce que vous avez interprété les propos de François Hollande dans Le Point ? Il faut, a-t-il dit, aller vers le renouvellement, il faut accompagner la marche du progrès. On entend bien la marche, comme dans En Marche d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez interprété cela comme un soutien implicite à Emmanuel Macron ?
Écoutez, vous savez, la campagne, c'est une campagne avec un certain nombre d'acteurs qui sont les candidats à la présidentielle. Donc moi, je préfère commenter les projets des candidats à la présidentielle plutôt que les commentaires de personnes qui ne sont pas...
C'est pas le propos de n'importe qui. C'est le propos du président de la République. Et je vous rappelle que vous êtes au gouvernement.
Le président de la République a décidé de ne pas se représenter et donc de ne pas être un acteur de la campagne. Et je respecte cela et c'est pour ça que je ne viendrai pas commenter des commentaires qu'il a pu faire. Je ne veux pas les interpréter.
Au fond, c'est lui-même qui ne respecte pas sa position, finalement, en intervenant dans la campagne.
Il a le droit de s'exprimer. Ouais. Mais après, moi, je n'ai pas envie de passer mes journées, encore une fois, à faire des commentaires de commentaires.
Ce qu'on sent bien, au fond, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas très envie du soutien de François Hollande, qui serait plus encombrant qu'autre chose.
Encore une fois, moi ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron, il a un projet, il a plein de gens autour de lui et il a envie de changer la manière de faire de la politique, il a envie d'apporter de nouvelles méthodes, il a envie de redonner un petit peu de vie à cette vie politique qui aujourd'hui est bien perturbée. Je trouve que c'est un petit peu plus intéressant, encore une fois, que de faire des commentaires de commentaires.
Bon, alors Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait recours aux ordonnances pour réformer, notamment sur le droit du travail, dès les premières semaines qui suivraient son arrivée au pouvoir, explique-t-il. Est-ce que ça correspond à votre façon de concevoir la réforme, puisque l'ordonnance, c'est une façon de gouverner, au fond, sans débat parlementaire.
Oui, c'est les ordonnances, il faut vraiment les utiliser de manière ponctuelle quand on a vraiment besoin d'avancer vite. Sur cette réforme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Je crois que le débat sur la loi travail a occupé beaucoup de l'actualité politique. Là, c'est sur un point particulier, c'est sur le dialogue social. Donc on est vraiment sur un point. On n'est pas pour refaire globalement une réforme totale qui, là, nécessiterait bien évidemment de passer devant le Parlement, même s'il faut aussi qu'on réfléchisse à comment faire pour que le système parlementaire et que pour les lois soient mises en place un peu plus rapidement. On voit aujourd'hui que 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire une loi, comme ça a été le cas pour la loi biodiversité, par exemple, c'est lourd.
Je vais vous proposer quelques citations au cours de cet entretien d'Emmanuel Macron. Et puisqu'on parle du droit du travail, de la question de l'emploi, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais d'abord de me battre.
Oui, je crois que c'est ce que font tous les chômeurs.
Oui, donc au fond, c'est n'est pas utile de le dire.
Non, mais toujours quand les phrases sont sorties un peu du contexte, je ne sais pas dans quelles circonstances il l'a dit, mais j'ai malheureusement eu l'occasion de rencontrer beaucoup de chômeurs pendant mon mandat de député, et je peux vous dire que tous les chômeurs que j'ai rencontrés se battent pour essayer de trouver un emploi, se battent pour des formations, en général font formation sur formation. Quelques-uns abandonnent, mais l'immense majorité sont des gens qui se battent.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est suffisamment soucieux des questions environnementales pour vous ?
Ah, il a beaucoup progressé sur ces questions-là.
Sous votre influence et celle de François de Rugy.
Je crois qu'il a compris que c'est un sujet qu'on ne peut plus éviter, que la protection de notre environnement, que le fait de proposer un avenir aux générations futures, c'est quelque chose qu'on ne peut plus négliger. Et c'est pourquoi il a un programme qui est un programme réaliste et qui est un programme qui, s'il est appliqué de A à Z, nous fera beaucoup progresser, que ce soit sur la transition énergétique, en pensant toujours aux plus faibles, c'est-à-dire que un des points de son programme, c'est la rénovation d'1 million de logements, la rénovation thermique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à payer leur chauffage parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques, de gros investissements sur les énergies renouvelables, sur le bio dans les cantines. Il veut passer à 50% de bio ou de circuit court dans les cantines d'ici 2022. D'une manière générale, on voit qu'il y a une vision globale et que on est tourné vers le développement durable. Et évidemment, j'ajouterai ma petite patte sur la biodiversité, vous inquiétez pas.
Et sur le nucléaire ?
Sur le nucléaire, c'est pareil. Il a accepté et il a assuré dans son programme qu'il continuerait la démarche pour passer à 50% d'énergie nucléaire en 2025. Et puis, sur la fermeture de Fessenheim, qui sera évidemment un premier pas, mais qui ne sera pas nécessaire pour atteindre le but qui est marqué dans son programme.
Sur le strict plan de l'écologie, de l'environnement, vous n'êtes pas plus séduite par le programme de Jean-Luc Mélenchon ?
Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon ou Emmanuel Macron, on a la trois programmes qui comportent des mesures écologistes intéressantes.
Mais Jean-Luc Mélenchon va beaucoup plus loin, en tout cas dans ses propositions.
Oui, bon, je trouve que comme Jean-Luc Mélenchon fait un programme qui est complètement irréaliste et qui ne pourra pas s'appliquer, ça ne m'intéresse pas.
Y compris dans ce domaine.
Mais oui, parce qu'à un moment... quand
100% d'énergie renouvelable, ben, c'est un leurre, c'est une utopie.
100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est quelque chose qui est possible. Il y a eu des scénarios qui ont été mis en place, notamment par l'ADEME, dont on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, qui ont montré qu'un scénario à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 était possible. Le problème, c'est la globalité du programme. C'est-à-dire que quand on décide de faire 200 milliards de dépenses supplémentaires, on ne peut pas y arriver, ou alors on doit y arriver en sortant de l'Union européenne. Écoutez, dans ces cas-là, je peux vous dire que tous les programmes que l'on peut mettre en commun au niveau de l'Europe, parce que si on veut vraiment avoir une politique écologiste efficace, il faut qu'on ait une politique nationale, mais aussi au niveau européen et au niveau international. Au niveau européen, je trouve beaucoup plus intéressant un programme comme celui d'Emmanuel Macron qui essaye de mettre en place un marché unique européen de l'énergie. Voilà quelque chose qui paraît un peu plus logique, avec un prix du carbone plancher. Voilà des points importants qui me paraissent réalistes. Parce que, encore une fois, on peut vendre la Lune, mais quand on arrive au pouvoir, il faut se confronter au réel.
Est-ce qu'il vous fait peur, Jean-Luc Mélenchon ? On commence à entendre dire ça par un certain nombre de personnes, notamment Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui hier s'inquiétait, même je vais reprendre son terme, d'un risque de dérive totalitaire si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir.
Alors, moi, je n'aime pas le mot peur, parce que j'ai toujours pensé que la peur était très, très mauvaise conseillère.
Ouais. Donc, et puis qu'elle n'évite pas le danger.
Exactement, elle n'évite pas le danger, donc il faut toujours garder la tête froide. Maintenant, je crois qu'il faut aussi que nos concitoyens n'aient pas la mémoire courte. Nous avons aujourd'hui un Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup lissé son discours, qui se pose comme un vieux sage, etc. Dans ces cas-là, n'oublions jamais de bien regarder les programmes. N'oublions jamais de regarder aussi comment les gens se comportent, le comportement de Jean-Luc Mélenchon notamment, vis-à-vis de la presse, est quelque chose qui est inquiétant, parce qu'on voit qu'en termes de liberté publique, on a quelqu'un qui n'y est pas très attaché, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois encore une fois que regardons les programmes, essayons de voir comment ils sont financés et rendons-nous compte de ce que veut dire une sortie de l'Europe, de ce que veut dire des dépenses. Je crois qu'on est à 80 ou 100 milliards d'impôts supplémentaires. C'est plus que le quinquennat Sarkozy et le quinquennat Hollande réunis. Bref, regardons concrètement les choses et n'ayons pas peur.
Être élu est un cursus d'un ancien temps, a dit Emmanuel Macron, il y a quelque temps déjà. Vous qui êtes jeune et élu, vous vous reconnaissez dans ce propos ?
Oh non, je ne me reconnais pas dans ce propos-là. Je pense qu'il a évolué depuis. Et puis, être élu, c'est être au service du public, c'est faire un beau travail. Je crois qu'il y avait peut-être dans sa charge une critique contre certaines méthodes politiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'un renouvellement de la manière de faire de la politique, y compris de la classe politique. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 14 000 personnes qui souhaitent être investies pour être députées En Marche, on voit que l'élu n'est pas si vilipendé.
Il n'est pas dévalué. En cas de victoire d'Emmanuel Macron, Barbara Pompili, est-ce que vous espérez jouer un rôle ? Est-ce que vous espérez, par exemple, entrer au gouvernement ?
Oh, on verra, mais de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais de la politique, c'est d'être utile. Là, ça fait un an que je suis...
On est utile quand on est au gouvernement, en principe.
Ça fait un an que je suis au gouvernement et je crois que j'ai pu montrer que j'avais mis en place un certain nombre de réformes qui n'auraient pas pu se mettre en place si je n'avais pas été là, donc j'en suis assez fière. Après, on peut être utile à plein de niveaux. En tant que députée, j'ai été, je crois, très utile sur les questions du handicap, sur les questions de l'école. Donc, on peut être utile à plein de niveaux. On verra bien ce qui se passe. Moi, je crois vraiment que la première...
Vous êtes ouverte à une éventuelle proposition.
La première étape, c'est que Emmanuel Macron gagne cette élection présidentielle pour redonner un souffle nouveau à la politique française qui en a bien besoin.
Merci Barbara Pompili. Bonne journée.
Bonne journée.